voix nue. Cette semaine, Rémi Dibowski-Douat rencontre Edwy Plenel. Ce soir, l'enfant exilé.
Bonsoir Edwy Plenel.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste, vous avez 67 ans, donc 44 passés à enquêter, écrire et révéler. Vous nous recevez dans les locaux de Mediapart que vous avez cofondé en 2008 et dont vous êtes aujourd'hui le président. Nous allons remonter ensemble le fil de votre histoire, une histoire de près d'un demi-siècle de journalisme, depuis les colonnes militantes de Rouge, le journal de la Ligue communiste révolutionnaire, où vous faites vos débuts à la fin des années 70, jusqu'à l'aventure Mediapart, hors norme par son succès public et par le nombre d'affaires révélées, ceci expliquant certainement cela. On se souvient de l'affaire Woerth-Bettencourt en 2010, de l'affaire Sarkozy-Kadhafi en 2012, de l'affaire Cahuzac la même année, ou plus récemment de l'affaire Benalla. Mais avant le marigot des affaires politico-financières, je vous propose, Edwy Plenel, de commencer par un lieu, un pays, celui de votre enfance. Est-ce que vous pouvez nous faire partager un souvenir, peut-être une image, de cette enfance créole ?
Spontanément, deux images me viennent. L'une dont je suis l'auteur et l'autre dans laquelle je suis le personnage. Deux images avec lesquelles je vis. L'une, c'est la photo d'un petit garçon en culotte courte, torse nu, assez bravache, content et tendant les bras, adossé à une balustrade sur une terrasse, qui regarde l'objectif droit dans les yeux. Ce petit garçon, c'est moi. Et en fait, c'est la terrasse de... là où était l'appartement de fonction de mon père, le vice-recteur de la Martinique, de la maison Clitande, qui est au-dessus du lycée Victor Schœlcher, qui était le grand lycée où il y avait même des petites classes, où je serais à l'école primaire. Et derrière, en fait, pourquoi je parle de cette photo, c'est que derrière, il y a au fond cet univers qui m'habite. C'est la baie de Fort-de-France, qui est formidable, qui est un lieu d'une immense beauté. Il y a le soleil, je suis... pris par ce rapport que j'ai eu avec la Martinique et que je n'arrive probablement pas à traduire en mots, que je traduis plus dans mes émotions, dans le fait que j'aime danser aussi, dans le fait que j'aime un peu une sorte d'énergie physique, le fait que j'aime l'ironie, contrairement à ceux qui disent que je n'ai pas d'humour, parce que le créole est plein d'ironie moqueuse, c'est une langue moqueuse. La Martinique, pour moi, c'est toute ma vie jusqu'à l'âge de 10 ans. C'est vraiment le pays d'enfance, et le pays d'enfance n'est pas forcément le pays de naissance. C'est le pays de toutes mes émotions premières. C'est le pays des nuits profondes et bruyantes. C'est le pays de la mer, du soleil, de la nature, de ces inattendus, c'est le pays de ces mystères, à tout point de vue, c'est pour moi ce qui m'a imprégné. Alors l'autre image, elle m'a été renvoyée par un abonné de Mediapart, je ne m'en souvenais plus. C'est mon premier article, et mon premier article est un dessin. J'ai concouru à l'âge de 7 ans, depuis la Martinique, à un concours du journal Pipolin, et j'ai gagné le prix, j'avais oublié. Et le prix, c'était que... peut-être que j'ai eu un abonnement prolongé, j'en sais rien. Mais le prix, c'était que mon dessin a été publié. Et mon dessin dit beaucoup de choses sur cette empreinte, parce que mon dessin, c'est une photo... Il y a la mer, en arrière, toujours. Il y a une plage, un cocotier. Il y a un couple de parents et un enfant. Et entre les deux, il y a un cocotier. Ce qui, pour moi, déjà, est l'image de toujours ma tendance à l'échapper, à la mise à l'écart. Le dessinateur, moi en l'occurrence, le peintre, a mis un cocotier entre ses parents et lui. Et lui, il est là, et il va s'échapper. Mais qu'est-ce qui frappe dans ce dessin ? Et je l'ai montré à Angela Davis quand je l'ai rencontrée, et elle m'a dit « j'en veux une copie pour le montrer à mes étudiants ».
Comment vous vous êtes représenté ?
Je suis noir, et mes parents sont noirs. La ligne de couleur, elle n'est pas... quelque chose de naissance. Elle est dans la tête.
Et vous vous sentez aujourd'hui encore empreint de...
Quand je vais à la Martinique, quand j'entends le créole, quand je vois les paysages, quand je bois des ponces, je peux en boire ici, je dois dire aussi. Mais, comment dire, je me sens tout de suite de plein pied. Avec même Mais des souvenirs qui pourront vous paraître ridicules, vous savez, quand le bitume d'une route est chauffé à blanc et qu'il y a ces petites pluies du début de journée ou de fin de journée, et que tout d'un coup, il y a cette odeur du goudron très particulière sortie de la pluie. J'adore ça. Je pourrais m'enivrer de cette odeur-là. Voilà, donc... Alors c'est curieux, hein, vous me direz, tiens, mais tu n'as pas choisi d'avoir une maison à la Martinique. J'ai longtemps préservé ce pays d'enfance en refusant d'y aller en vacances. L'émotion qui peut me rattraper quand j'en parle, et surtout quand je parle lié ça à l'histoire de mon père et de la famille, et de comment la famille a vécu ça, parce que ça a été un arrachement, ça a été beaucoup plus pour mes parents que pour moi une blessure peut-être. Je dis souvent que moi j'ai pris la part de lumière de tout ça et que ma mère, ma sœur ont pris peut-être la part d'ombre, puisqu'au fond l'une et l'autre, quelque part, j'allais pas dire en sont mortes, mais quelque part il y a... C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à parler d'elle.
De votre mère.
Et de ma sœur aussi, qui sont les perdantes de cette histoire. Souvent... Des personnes m'ont fait remarquer, on me dit, mais tu parles beaucoup de ton père et tu as une émotion dans le lien avec ton père et ta mère et ta sœur. Et en fait, c'est pas qu'elles sont absentes, c'est qu'elles sont dans cette part. J'aime mentionner, et de fait, vous m'amenez à la remettre en cause, cette formule, alors que je suis pour le droit de savoir. Rien à voir avec la transparence, je n'emploie jamais le mot de transparence. Mais j'aime bien quand Édouard Glissant dit qu'il y a un droit à l'opacité. Il y a une part de nous qui doit rester opaque et de cette manière, mon émotion que vous conviez parfois dans cet échange, elle est opaque, elle est même opaque pour moi, hein, je n'en ai pas toutes les clés. Et dans cette opacité, eh bien, il y a le fait que la part féminine de cette histoire a été une part blessée. Dans le cas de ma mère, ça s'est traduit par... le fait qu'elle a été rattrapée par un alcoolisme et qui fait que vous avez un premier accident, un deuxième accident, un troisième, et qu'au bout d'un moment, on vous dit, si vous reprenez une goutte d'alcool, vous vous tuez. Et en fait, elle l'a fait, elle s'est tuée. Et quant à ma sœur, elle s'est... Dans un suicide, après, comment dire, certains vont dire, c'est un suicide d'appel, et elle n'avait pas fait de tentative avant, mais toujours est-il qu'elle s'est suicidée. Je ne fais pas de lien de causalité et par ailleurs, on ne peut pas... Je déteste, quelle que soit l'ampleur des malheurs, celles et ceux qui mettent en bandoulière leurs malheurs. Je crois au contraire que les blessures, quelles qu'elles soient, et il y en a des beaucoup plus graves que celles que je viens d'évoquer, pour moi, elles sont une invitation à s'occuper des autres, à aller vers les autres, à se battre pour les autres. Si les blessures macèrent, si elles sont une invitation au repli identitaire, regardez quelle est l'ampleur de ma blessure et elle devient indifférence à d'autres blessures, à d'autres crimes, à d'autres victimes. Il y a un poème de Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien, qui est formidable de ce point de vue, qui est « Pense aux autres ». Et pourtant, c'est un poème de quelqu'un qui est requis par une lutte, la lutte pour les droits des Palestiniens. Mais il dit « Pense aux autres, hein, et ne te replie pas ». Et souvent, j'aime lier ce poème à un autre poème, celui de Charlotte Delbault, rescapée d'Auschwitz, résistante, la prière aux vivants, pour qu'ils fassent quelque chose de leur vie, hein, afin que tant ne soit pas mort pour rien. Hein, eh bien, voilà, faites un pas, faites une danse, ébauchez, faites quelque chose de votre vie. Et donc, voilà, je crois que c'est là où, en tant qu'individu, on est requis, faire quelque chose de notre vie, pour que toutes les souffrances n'aient pas eu lieu pour rien.
Alors il y a un départ, c'est celui du pays de l'enfance. Il y a aussi un événement fondateur, et je vous propose de planter le décor. Votre père était vice-recteur de Martinique, et en 59, il est révoqué. Est-ce que cet événement, pour vous, est fondateur, et peut-être que vous pouvez nous expliquer le contexte de cette révocation?
Oui, bien sûr, et le contexte de ce qui peut-être fonde cette émotion. Mon père est un Breton, d'ailleurs... Ma mère aussi, je suis issu de deux lignées bretonnes. Mon père est un Breton d'une génération, il est né en 22, donc il avait 18 ans en 40, il avait 20 ans en 42, qui est de cette génération, c'est très important pour comprendre des itinéraires de l'après-guerre, c'est un autre monde aujourd'hui, qui au fond ne fera rien de mal et encore moins de scandaleux pendant l'occupation et la collaboration. Mon père sera réfractaire au STO, mon père se cachera pour ne pas faire le travail obligatoire, mon père sera interprète des armées américaines à la libération à Rennes. Mais bon, il ne sera pas un martyr ou un héros de la résistance à un âge où il aurait pu l'être. Et donc, c'est une personne qui... comme d'autres de sa génération, on pourrait dire c'est l'époque, la génération sartrienne, qui n'a rien fait d'héroïque pendant la guerre, mais qui, après la guerre, du coup, rattrape quelque chose par ses positions de principe, par sa fidélité à des principes. Alors, quand je dis c'est un Breton, c'est très important pour la suite de l'histoire martiniquaise. J'ai compris ça, d'ailleurs, après sa mort. La période de l'occupation pour la Bretagne est marquée d'une honte. Le mouvement nationaliste breton va collaborer, va défiler sous l'uniforme nazi, va accompagner le racisme, la xénophobie, le crime contre l'humanité. Je dis ça parce que j'ai toujours entendu mon père me confier ce souvenir de jeunesse, de sa honte, quand il s'occupait de défense passive, d'aller sauver, d'aller aider les blessés sous les bombardements, quand il, sous l'occupation à Rennes, où en même temps il avait cette honte de voir des Bretons bretonnants avoir collaboré. Ça explique pour moi ce qui fut la rencontre de mon père avec la question coloniale. Pour résumer, pour échapper à la France, cet homme brillant, il a 30 ans en 52, il candidate. Il candidate, on est encore dans le Grand Empire français, et il candidate pour des postes d'administrateur de l'éducation. Je crois qu'il y avait deux postes possibles en Afrique, j'ai oublié les pays, et finalement le poste qu'il a, c'est la Martinique. Il y arrive, et moi je suis, et je n'ai pas de souvenir d'avant la Martinique, donc j'y suis à 2 ans et demi. Il y sera de 1955 à 1960, puisqu'en fait la vraie révocation, c'est 60. Et il a un coup de foudre pour ce monde qu'on connaît mieux aujourd'hui, entre Césaire, Édouard Glissant, Chamoiseau, ce tout monde de la créolisation du monde auquel il s'abreuve et qu'il rencontre à égalité. Et donc moi, c'est mon pays d'enfance. Je parlais créole, j'étais, comme on dit, un gamin cireur qui faisait des bêtises avec mes copains. J'ai été plutôt élevé, comme on disait à l'époque, des hauts fonctionnaires. Cette maison clitante, c'était la terrasse. Il y avait l'appartement du vice-recteur et en dessous, c'était l'appartement du procureur. L'éducation était à l'étage au-dessus. Voilà, c'était ce monde colonial. Et en fait, pour dire les choses très clairement, mon père a franchi la ligne de couleur. Mon père... chargé de l'éducation, combattant, il y avait encore beaucoup d'analphabétisme, étant un bâtisseur d'écoles, il ira inaugurer presque chaque semaine à un moment de nouvelles écoles, pariant sur l'éducation, il va passer la ligne de couleur. En fait, il ne va pas fréquenter le monde des béquets, le petit monde colonial, il ne va pas fréquenter le petit monde blanc replié. Bref, dans ce contexte qui est celui des indépendances, du congrès des écrivains noirs à la Sorbonne, de la résistance à la guerre d'Algérie dans les Caraïbes, de la révolution cubaine en décembre, janvier 59. Et donc tout ça fait que dans ce contexte, eh bien mon père va un jour faire un geste qui est pour moi les vrais gestes fondateurs, un simple geste. Alors que se passe-t-il ? Il se passe qu'il y a une émeute provoquée par un incident raciste. Et du coup, il y a un soulèvement, une émeute spontanée contre ce soulèvement raciste. Et dans cette émeute, 3 jours, mon père dira, les 3 glorieuses du peuple martiniquais, des collégiens, dont l'un était parent de quelqu'un que nous connaissions, le jeune Marajo, sorti du collège, sont tués à balles réelles. Ils n'étaient pas manifestants, ils passent, ils sont tués. Et mon père allait inaugurer une école au Morne Rouge, au flanc de la... du volcan, de la montagne Pelée, dans une municipalité communiste, et la municipalité décide de donner le nom de ce jeune Marajo à ce collège. Et là, c'est là où il fait ce discours. Il dit « Je ne suis pas la France qui a tué ces jeunes, je suis une autre France ». Comme il avait traversé la ligne de couleur, Et comme évidemment, ces Antillais ne peuvent pas se diriger tout seuls, donc forcément, il fallait un chef d'orchestre. Et donc, le chef d'orchestre est devenu, aux yeux de ces rapports de police, qu'on a lus 50 ans après, parce que les archives ont été ouvertes, c'était comme si ce vice-recteur était le chef d'orchestre clandestin. Du coup, il va être appelé, il va y avoir une grève générale, et du coup, on va devoir quitter ce pays en 1960, à l'été 1960. Cet homme a dit non. Et pour moi, voilà, ça a déterminé ma vie.
Vous évoquiez la carrière donc de votre père, et cette dernière prendra un virage puisque vous vous retrouverez tous en Algérie en 1965. Alors vous, Edoui Plenel, vous avez 13 ans. Et j'aimerais savoir à quoi ressemble l'Algérie de 65 dans les yeux.
Alors, pour dire, parce que c'est probablement une clé sur laquelle je travaille, mais maintenant que je suis le seul témoin de cette histoire familiale, la vérité, c'est que moi, je reviens à la Martinique. Je ne supporte pas le premier hiver. On est à Sucy-en-Brie, à la Cité Verte. Je suis dans une école primaire avec un instituteur en blouse grise qui donnait des coups de règle. Ça me était tout coup nostalgique de Madame Montalin, mon institutrice adorée. Et un jour, un ami antillais est passé. C'était la veille du jeudi de l'Ascension 1961. Et il vient dîner à la maison le mercredi soir, et il avait une particularité, c'était une figure, un médecin comme on imagine le docteur De Toré. Et il avait une particularité, dans sa maison il y avait des grosses voitures américaines, et d'autre part il y avait des chiens danois. C'est curieux, hein, qu'est-ce que viennent faire des chiens danois à la Martinique, mais ça lui plaisait bien. Et voilà, et il allait revenir avec un nouveau danois. Et le jeudi midi, je dis à mes parents, moi j'aimerais bien être à la place du chien. Et mon père me dit, j'ai 8 ans, hein, mon père me dit, ah ben tiens, pourquoi pas. Mes parents, habitude qu'ils avaient gardée, qui est une bonne habitude des Antilles, vont faire la sieste. Pendant qu'ils font la sieste, j'ai fait mon bagage. Et quand ils se sont réveillés, j'étais prêt, j'avais fait mon bagage. Ma mère était un peu bouleversée, mon père a trouvé ça très chic, et le soir même, je me suis retrouvé dans un avion. Et j'ai passé un an et demi dans la famille de Toré. Je dis ça parce que je parlerai d'une autre famille en Algérie. Et j'ai je suis revenu pour l'entrée en sixième. Et je n'aurais passé finalement que 3 ans avant, dans cette banlieue parisienne, avant d'aller en Algérie. Je dis ça parce que c'est curieux comme histoire. J'ai toujours, évidemment, quand ma propre fille a eu 8 ans, je commençais à m'interroger. Je me dis, est-ce que tu aurais fait pareil? Et probablement que c'est une clé mystérieuse que je ne connais pas bien pourquoi avoir eu cette envie de fuite aussi, pourquoi avoir été à ce point accueilli par cette famille, ça a été merveilleux. Il faut bien voir qu'à l'époque, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de communication. La seule gifle que j'ai reçue dans mon souvenir, c'est du docteur De Toré, parce que je n'écrivais pas à mes parents. Et donc je cite cette famille, parce que pour moi, Simone De Toré, Jacques De Toré, Suzanne De Toré, je cite leurs noms, ils vivent toujours, c'est ma famille, c'est aussi ma famille. Et donc là-dessus, que se passe-t-il? Il se passe que mon père, toujours bien noté, et à l'Institut Pédagogique National, la rue d'Ulm, il est le premier, c'était l'ancêtre de ce qui s'est appelé le Centre National Documentation Pédagogique et d'autres choses, il est responsable de la radio et de la télévision scolaire. C'est le début d'une illusion qui va se développer jusqu'aux années 70, qu'avec la radio et la télévision, on peut faire de l'éducation à la place des maîtres en partie. Voilà. Il fera des choses formidables, notamment par exemple plein de séries avec Haroun Taziev, avec des gens comme ça. Bon bref, c'est son job, quoi. Il fait ça. Mais en même temps qu'il fait ça, il continue à s'intéresser à cette histoire de coloniale des Antilles dans le cadre du contexte de décolonisation. À l'époque, il reste 2 empires coloniaux, hein, le Portugal et la France. Et aujourd'hui, il n'en reste plus qu'un, la France. Hein, c'est-à-dire 2 pays ayant des colonie directe, hein, quelle que soit, et la France est aujourd'hui la seule puissance coloniale directe entre présente à peu près dans tous les continents. Et donc, c'est une bataille même à l'ONU, inscrire la France dans le comité de décolonisation, comme on inscrivait le Portugal pour l'Angola, pour le Mozambique, etc. Donc mon père continue à participer à ça, et il est réprimé, il est le seul européen, réprimé au titre de ce combat autonomiste, décolonisateur pour les Antilles. Une simple mesure de police. Un arbitraire total, hélas, cela revient de nos jours. Il n'avait pas le droit de quitter l'Hexagone, alors qu'il n'a jamais été condamné à quoi que ce soit. C'était pur arbitraire policier. Dans ce contexte, il est invité à une rencontre, à titre personnel. Et du coup, il se retrouve à Alger, et là, il fait une nouvelle imprudence, comme son nom, mais les vraies imprudences fondatrices. Il accepte une interview sur cette question coloniale française, hein, qui est des choses évidentes aujourd'hui, très modérées. C'était pas, voilà. Ben, le temps fait son œuvre, quelques mois, et en janvier 65, il ouvre comme aux fonctionnaires le bulletin officiel, le journal officiel, un matin, et il voit un décret signé Charles de Gaulle, président de la République. Les fonctionnaires d'autorité sont cassés par le président de la République, qui le casse comme inspecteur d'académie, ce qui était son, puisqu'il n'avait rien perdu, malgré son déplacement de la Martinique, il n'avait pas été révoqué, il avait simplement été changé d'affectation. Et il se retrouve professeur au lycée de jeunes filles de Clermont-Ferrand. Voilà. Et là, on est en 1965, pareil, et peut-être j'ai gardé ça, d'une certaine manière, prendre la tangente, alors moi peut-être moins physiquement et plus dans la tête, s'échapper, prendre la trace, comme on dit aux Antilles, hein, la trace, l'échapper. Et du coup, il a le choix. Alors on est dans le contexte des années 60, il hésite entre Cuba, la Chine et l'Algérie. Et évidemment, il fait le choix le plus raisonnable, hein, à la fois de proximité, d'univers commun, et il se retrouve, il se met en congé, et il se retrouve comme un fonctionnaire de l'État algérien, donc mal payé, payé au lance-pierre, professeur à la faculté, à l'école d'administration, il a formé beaucoup de cadres du jeune État algérien, à l'école de journalisme aussi. Bref, il va faire ce travail jusqu'en 1968, où Stéphane Hessel va le repérer et le faire réintégrer. J'ai parlé de lui plus que d'Alger, mais je vais venir à votre question.
Alors vous y êtes là à Alger, à ce moment-là, vous en avez terminé avec l'épisode de l'enfance des années 60. Je voudrais qu'on vienne à ce que vous datez comme étant votre premier geste politique. Là, on est en octobre 67, vous avez 15 ans et vous écrivez à l'ambassadeur de Cuba à Alger. Vous pouvez nous raconter ça ?
Oui, je vais vous raconter ça. Mais en fait, il y a une continuité. C'est ça que je voulais souligner. Je suis en France depuis 1970. Et en fait, je crois, comme ça, et ce n'est pas une affaire de nationalité, qu'en fait, je vis à Paris, j'ai la notoriété et le chemin professionnel que l'on connaît. Et en fait, ça peut vous paraître ridicule, mais moi, je me vis comme un exilé. Je ne suis pas chez moi, tout à fait, ici. Et au fond, mes chez moi, c'est cette continuité martiniquaise et algéroise et algérienne sont mes chez moi. Je les sens comme ça. Et la continuité était présente puisqu'il y avait à Alger à cette époque tout un groupe d'Antillais, des Antillais qui ne pouvaient pas revenir en France parce qu'ils avaient choisi le FLN, qui donc ne seront autorisés parce qu'ils étaient considérés comme des gens qui avaient déserté, qui avaient un poète, Sonny Rupert, un autre écrivain, ça c'est un Guadeloupéen, Daniel Buchmann, tout un petit monde qui se retrouvait. Et ils se retrouvaient avec Mario de Andrade, figure et poète, lui aussi du MPLA, de l'indépendance, de la lutte pour l'indépendance de l'Angola, et ainsi de suite. C'était, tout ce monde était en même temps là imbriqué. L'Alger de cette époque, c'est ce qu'on a appelé la Mecque des révolutionnaires. Ce qui évidemment, faisait écran au durcissement du pouvoir qui avait commencé pendant la guerre d'indépendance, la prise en main par les militaires, les règlements de compte au sein du FLN, l'assassinat d'Aban Ramdan, l'armée des frontières, ce qui va donner le pouvoir du parti unique, le coup d'état de Boumédienne. Quand nous arrivons à Alger, c'est juste après le coup d'état de Boumédienne qui renverse Ben Bella. Bon, donc il y a cet autoritarisme qui va donner d'autres malheurs pour le peuple algérien, qui résiste avec une admirable patience. Mais en même temps, jusqu'à 70-71, fait écran ce bouillonnement révolutionnaire. Ce bouillonnement où il y a les panthères noires américaines qui arrivent, tout le monde, Myriel, le festival panafricain dont j'ai été témoin en 1969, Archie Shepp qui arrive et qui joue son free jazz, Myriam Makeba, Afriki, on entend tout ça, il faut imaginer tout ça, William Klein qui vient filmer ça, etc. Donc moi je ne suis qu'un enfant de cette histoire-là. Donc, je dirais, en la théorisant un peu, que pour moi, c'est la question sociale posée et la question démocratique posée jusqu'à son extrémité. L'égalité.
Si bien qu'en 67, vous prenez votre plume pour écrire. Dites-moi.
Parce que j'ai 15 ans et notre figure à nous, moi j'étais un tiers-mondiste, et au fond, notre figure, c'est Che Guevara. L'homme qui, au fond, a refusé le pouvoir et a considéré qu'il fallait se battre sur tous les continents, ne pas oublier que la guerre du Vietnam continuait, qui fait le tour du monde. Avant de disparaître, le Che fait son discours d'Alger, justement, en 65. Et donc, avec des copains, quand le Che est assassiné, nous faisons un geste qui est à la fois sympathique et ridicule, nous faisons deux lettres. Une lettre au peuple cubain et une lettre à la famille du Che, que nous allons solennellement remettre à l'ambassadeur de Cuba, qui nous reçoit, qui était un afro-cubain, quelqu'un plutôt de la région de Santiago. Et alors, j'ai toujours raconté ça, il nous reçoit, sympathique et tout. Et voilà, et ça n'ira pas trop plus loin, mais il nous offre, il nous propose à boire, et dans mon sectarisme juvénile, j'ai été très choqué parce qu'il nous propose du Coca-Cola. Donc je me disais, mais qu'est-ce que c'est, la boisson des impérialistes? Bon, je ne buvais pas encore de rhum, donc voilà. Je veux dire, tout ça, c'est anecdotique, mais disons, ce que ça pointe, c'est vrai, c'est que pour moi, j'ai toujours eu un rapport à l'écriture. Je faisais des petits articles pour moi-même sur la réforme agraire à la Martinique. J'ai un article que j'ai fait à l'âge de 11 ans, où j'avais prévu une réforme agraire à la Martinique, puisque la question de la terre était essentielle, avec les propriétés des béquets. Derrière ça, il y a évidemment le garçon qui reflète les discussions des parents, qui ont fait. Après, j'ai fait un petit journal au lycée Victor Hugo d'Alger, qui s'appelait Le Tigre en papier, écho évidemment à l'époque. Mais au fond, derrière, il y avait l'arme de l'écriture, tout de suite, mais derrière ça, il y avait cette idée qu'au fond, c'est pas la politique qui me saisissait, au sens, comme on disait, un parti politique, des mouvements politiques, des courants politiques. C'était être requis par l'état du monde. Et je pensais plutôt être requis par l'état du monde dans d'autres régions que celle-ci. L'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, voilà. Et je vivais à ce diapason-là.
Donc continuer, Edwy Plenel, certainement à ressentir ce sentiment d'exil que vous décrivez, puisque vous allez finalement rejoindre Paris, et c'est ce que je vous propose de nous raconter dès demain. Merci, Edwy Plenel.
Merci.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Rémi Dibowski-Douat avec Edwy Plenel. À voix nue. Réalisation Laurent Polleret, prise de son Yvan Turc, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue, se réécouter ce podcast sur franceculture.fr.